En 77 naissait donc l'IRCAM, l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique, dirigé par le compositeur Pierre Boulez. Et c'est donc dans ce bâtiment que se noue depuis un dialogue permanent entre la musique et la science autour d'innovation et de technologie. Et ce sont des disciplines, on va le voir, comme les mathématiques, la biologie ou même les neurosciences qui s'articulent autour de la musique pour en explorer de nouvelles formes. À partir de demain et jusqu'à dimanche se déroule un grand week-end autour de cet anniversaire de l'IRCAM. C'est l'occasion pour nous de pénétrer dans les coulisses des recherches scientifiques de cet institut et de vous proposer une déambulation sonore issue de ces 4 décennies d'innovation musicale. J'attends bien sûr vos messages et vos questions autour de la musique contemporaine, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la météo de cet été sortie du ventre des supercalculateurs.
Oui, l'été démarre aujourd'hui, le 1er juin en tout cas, pour les météorologues qui dévoilent 3 mois de prévision, des probabilités de plus en plus affinées grâce à des super programmes informatiques et des chercheurs. On en parle avec l'un d'eux, le climatologue Christian Vielle.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise l'émission, préparée par Benoît Tonson et Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les 40 ans de l'IRCAM dans l'émission dans un instant avec mes invités Hugues Vinet et Marcus Neusternig. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour Mathieu.
Bienvenue Hugues Vinet. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est l'innovation scientifique qui a le plus marqué au fond ces 40 années de l'IRCAM?
Bon, c'est une question difficile, il y a quand même beaucoup de recherches. Je pourrais dire peut-être toutes les technologies qui concernent le traitement en temps réel du son, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'un son est émis, l'ordinateur va pouvoir le transformer. Et ça, ça a vraiment permis de produire les premières œuvres emblématiques de l'IRCAM, donc des œuvres dites mixtes où vous avez des instruments qui jouent sur scène et l'ordinateur qui les traite en direct.
Ouais, on va voir ça avec vous en détail dans un instant. Marcus Neusternig, vous travaillez-vous sur la spatialisation et la perception sonore? Sur quel type de lieu, par exemple, est-ce que vous travaillez pour qu'on comprenne là aussi vos recherches?
Bon, nous, on travaille plutôt sur la virtualisation des salles, sur l'acoustique. Et là, on a un lieu exceptionnel à l'IRCAM, c'est l'espace de projection, c'est une salle à acoustique variable qui a été équipée en 2011 avec un dispositif de la diffusion son 3D avec 350 haut-parleurs, qui est actuellement en rénovation et on attend avec impatience la réouverture de ce lieu de travail.
Vous allez nous expliquer l'objet justement de vos travaux, on ira dans une église vénitienne par exemple, et puis vous répondrez aux questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et le mot-clé d'attaque, bon, pour nous parler de ce rapport à la musique et aux sonorités contemporaines. 3 mois de prévision météo estivale dévoilée par Météo France à la une aujourd'hui. Et l'été pourrait être chaud, juin, juillet et août. Météo France annonce donc les tendances sur le temps qu'il va faire en Europe et en France. Des prévisions à moyen terme qui n'intéressent pas que les vacanciers et qui reposent également sur la puissance de calcul de super ordinateurs. Christian Vielle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes climatologue à Météo France. Alors la probabilité d'un scénario plus chaud que la moyenne cet été est, paraît-il, de 50%, c'est ce que vous dites à Météo France. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
Alors c'est vrai que le chiffre de 50% peut pas être un petit peu modeste. En fait, il ne faut pas chercher à l'interpréter comme une chance sur deux d'avoir un été chaud ou un été froid. En prévision saisonnière, on définit habituellement trois catégories. En fait, une catégorie plus froid que la normale, normale ou plus chaud que la normale. Et si on classe les étés des 30 dernières années dans ces catégories, on a un tiers des années qui sont dans le froid, un tiers dans le chaud et un tiers dans le normal. Donc chaque catégorie représente en fait 33% des situations. Donc si aucune tendance ne se dégageait, on indiquerait pas de scénario, c'est-à-dire 33% de probabilité d'avoir un de ces trois scénarios. Et dans le cas de l'été 2017, on annonce 50% pour un scénario chaud, c'est-à-dire qu'on a une fois et demie plus de chances d'avoir un scénario chaud que la normale.
C'est la tendance.
Et si on regarde aussi les probabilités des autres scénarios, puisqu'en fait c'est quand même une prévision probabiliste à la base, on indique environ 20% de chances d'avoir un été plus froid que la normale.
Quelles données vous prenez en compte pour prévoir la météo 3 mois à l'avance?
Alors les données nous sont essentiellement fournies par des modèles de prévision, donc des modèles de prévision saisonnière qui sont des modèles assez semblables à ceux utilisés pour les projections climatiques, assez semblables aussi à ceux qui sont utilisés même pour les prévisions à courte échéance, à quelques jours. Donc des modèles qui simulent les conditions atmosphériques, mais aussi les conditions de l'ensemble du système climatique et notamment des océans.
D'accord. Et quelles sont les régions du globe où les prévisions sont les plus justes ?
Les régions les plus favorisées, si je puis dire, en termes de prévisions, sont les régions tropicales, où les interactions avec les océans sont les plus fortes, en fait. C'est là où on bénéficie le plus, finalement, de l'inertie des conditions océaniques, et qui donne finalement des horizons de prévision plus importants.
Alors que montre l'expérience justement par rapport à ces prévisions à 3 mois, parce que ça fait quand même quelques années maintenant que vous êtes capable de les donner. Vous avez souvent raison, finalement les ordinateurs se trompent un peu, quand même beaucoup même.
Alors, comme je l'ai dit, ça dépend énormément finalement des régions géographiques qu'on considère. Dans les régions tropicales, si on s'intéresse par exemple à la prévision du phénomène El Niño, on peut trouver des qualités de prévision remarquables. Hein. On a des scores de prévision qui sont tout à fait bons à plusieurs mois d'échéance, même plus que 3 mois. Donc là, on est plus proche des conditions océaniques. Quand on connaît bien les conditions initiales, on est capable d'extrapoler de manière très fiable.
Grâce à cette stabilité des températures, justement, dont vous parliez des océans.
Voilà, c'est ça. On est très lié aux conditions océaniques et ces conditions océaniques pilotent assez directement les conditions atmosphériques par des échanges d'énergie qui s'opèrent tout au long des saisons. Oui.
Mais pour l'Europe, donc, c'est plus compliqué.
Alors, pour les moyennes latitudes en général, c'est plus compliqué. La proximité du Pacifique pour l'Amérique du Nord, par exemple, permet d'augmenter la qualité de la prévision, puisque là, on se situe aux abords d'un océan extrêmement vaste. En revanche, quand on s'approche de l'Europe, c'est vrai qu'on est dans une région du monde qui est pas très favorisée en termes de prévision saisonnière, et où les calculs de score, de fiabilité, montrent qu'on arrive à faire un petit peu mieux que la connaissance climatologique, mais que les performances restent quand même limitées.
Oui. Christian Vielle, d'où viennent les informations justement que vous donnez à manger à vos supercalculateurs ? Ce sont quoi, des informations issues des satellites, de balises dans l'océan ? Comment ça fonctionne ? Vous avez un maillage partout sur le globe ?
Alors voilà, on a des informations qui nous proviennent effectivement d'observations locales. Les satellites jouent un très grand rôle puisqu'ils nous apportent des informations vraiment globales sur des régions qui sont complètement inaccessibles à l'observation et aussi sur toute l'épaisseur de l'atmosphère. C'est ça qui est assez remarquable aussi, où on arrive à extrapoler finalement des profils de température, d'humidité, des vents à toutes altitudes. Donc là, c'est une source d'informations extrêmement riche et nécessaire pour ce genre de simulation.
Et pour synthétiser toutes ces données, on voit bien qu'elles sont multiples. Le rôle des supercalculateurs est particulièrement important, notamment pour des prévisions à 3 mois.
Alors c'est essentiel pour les prévisions à 3 mois, c'est essentiel pour les prévisions à courte échéance et pour les prévisions, enfin les projections climatiques. En fait, les ressources de calcul d'un supercalculateur comme celui de Météo France sont dédiées à plus de la moitié à la prévision. Et sans les supercalculateurs, on serait bien incapable de faire des prévisions comme celles qu'on fait actuellement.
Pourquoi on dit supercalculateur ? C'est quoi leur capacité ?
Donc ça, c'est des machines qui sont capables de réaliser des milliards, des millions de milliards d'opérations par seconde. C'est-à-dire, c'est des puissances de calcul qui n'ont rien à voir avec les ordinateurs classiques qu'on peut rencontrer dans la vie courante. Et c'est surtout des capacités de calcul qui sont en constante augmentation et qui permettent par leur justement l'augmentation de ces capacités d'améliorer la modélisation, à la fois les processus physiques, les interactions entre les différents éléments du système climatique, par exemple pour ce qui concerne la prévision saisonnière. Donc on a vraiment, on peut bénéficier des améliorations des supercalculateurs qui sont des outils vraiment très utiles. Oui.
Voilà, puissance multipliée par 500 000 depuis 1992. Christian Vielle, pour terminer, quel temps va-t-il faire alors en France métropolitaine cet été quand même ? Donnez-nous la grande tendance.
Donc la tendance qui dégage, le scénario le plus probable, donc c'est un scénario chaud, c'est-à-dire plus chaud que la normale. Donc c'est un signal qu'on retrouve dans la plupart des modèles de prévision saisonnière qu'on utilise pour élaborer ces prévisions. Et c'est un signal qui provient certainement en bonne partie du signal du réchauffement climatique. Donc ça, c'est des choses qu'on observe et qui sont vraiment flagrantes quand on regarde une carte de prévision à l'échelle globale où les zones chaudes dominent.
Et on parlera de canicule ou pas cette année ?
Alors ça, c'est beaucoup plus difficile en fait. Les tendances qui sont données dans ce genre de prévision sont des tendances moyennes à l'échelle de plusieurs mois. La prévision d'épisodes au sein de ces saisons reste quand même très hasardeuse et donc on n'indique pas de tendance sur ce type de phénomène.
Bon, en tout cas, l'été commence aujourd'hui pour Météo France, visiblement, Christian Viel, avec donc l'annonce de ces prévisions à 3 mois. Merci beaucoup pour justement ces infos. Et puis Agnès, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la découverte d'un vestige moléculaire précurseur du vivant. L'étude des traces de la vie sur Terre ont pu remonter jusqu'au plus vieil ancêtre commun, et c'est une bactérie baptisée Lucas. Mais comment Lucas s'est-elle formée? Comment est-elle passée du minéral au vivant? Pour le comprendre, il faut réfléchir à l'échelle moléculaire en chimie prébiotique, et c'est ce qu'ont pu faire des chercheurs de 3 laboratoires réunis de l'université Pierre et Marie Curie. Ils sont parvenus à former ces molécules, des biopolymères qui sont les premiers, donc les premières à avoir émergé dans la Terre primitive et qui sont donc le trait d'union entre la matière inerte et la matière vivante. Leurs travaux sont publiés dans la revue Angewandte Chemik. Comment contrer les super bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques? Eh bien, en créant justement un super antibiotique. C'est ce que vient de faire une équipe de chercheurs californiens. Ils sont partis d'un antibiotique qui a perdu de son efficacité, la vancomycine, dont il est boosté, donc ils ont boosté les capacités. Et le voilà donc 1000 fois plus puissant, mais surtout capable de réagir à une contre-attaque des bactéries. Ce super antibiotique doit maintenant être testé sur des animaux et des humains. Ces travaux sont publiés dans la revue PNAS. Et puis enfin, pourquoi les flamants roses se reposent sur une seule patte? Cette posture qui nous semble si peu agréable est celle qui en réalité leur demande le moins d'énergie musculaire. Des chercheurs d'Atlanta ont étudié ces animaux qui sont plus stables sur une patte plutôt que sur deux, et la réponse tiendrait à leur structure osseuse et à leur poids. Sur une patte, leur centre de gravité est mieux placé. Et nous fêtons les 40 ans de l'IRCAM dans un instant. Talking to God.
Jacques Chazot maintenant, Pierre Boulez. C'est à l'automne 1975 que Pierre Boulez prendra la direction de l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique, que l'on appelle déjà par ses initiales l'IRCAM, et qui fera partie du Centre d'Art Contemporain du Plateau Beaubourg. Pierre Boulez, comment ?
On va se marrer, je dis.
Oui, peut-être.
Il y a le département des électroacoustiques, de sons électroniques en général, tout ce qui est son qui n'est pas produit dans la nature, mais produit d'une façon électronique. Il y a un département qui est réservé uniquement aux ordinateurs, puisque les ordinateurs prennent de plus en plus de place dans la recherche, aussi bien dans la recherche scientifique que dans la recherche musicale. Et je crois que c'est la première fois qu'on mettra en rapport tous ces gens ensemble, et qu'on mettra en particulier en rapport aussi constamment et sur un plan de la recherche des instrumentistes, des compositeurs qui ont à inventer ce qui est nouveau, et des scientifiques et des techniciens qui aideront les compositeurs à inventer ce qui est nouveau.
Et c'était Interactualité en mars 1974 avec la voix d'Yves Mourouzi qui présentait le 13h et qui avait donc à ses côtés à la fois Jacques Chazot comme invité et Pierre Boulez pour les 40 ans de l'IRCAM donc que nous fêtons aujourd'hui. C'est le dossier de la tête au carré pour découvrir ensemble les coulisses des recherches scientifiques menées donc dans cet institut dédié à l'acoustique et à la musique. Hugues Vinet, vous êtes le directeur de recherche justement scientifique et développement à l'IRCAM. Et puis Marcus Neusternig, vous êtes chercheur au sein de l'équipe Espace Acoustique et Cognitif. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. Hugues Vinet, vous nous avez apporté plein de sons, évidemment, hein, pour pouvoir découvrir ce que vous faites exactement. Dans cet institut peu connu, finalement, du grand public, non ?
Alors, c'est vrai que l'Institut est plus connu pour son activité artistique, pour les concerts que nous organisons. Et donc, il y a, les concerts sont toujours pleins, je dois dire tout de même. Mais pour la recherche, effectivement, nous sommes plus connus des milieux professionnels, que ce soit les milieux de la recherche et les milieux professionnels du son en général.
Oui, vous avez entendu la réaction de Jacques Chazot hein, dans l'extrait. Il a dit « on va pas rigoler » en parlant de l'IRCAM. Mais il y a toujours un petit peu cette image d'austérité autour de la musique contemporaine. Pourquoi ?
Alors écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, lorsqu'on travaille l'IRCAM, on peut vous dire que c'est une ambiance de travail vraiment très agréable, et les gens s'entendent très bien, etc. Et on peut dire qu'on s'amuse bien tout de même. Alors c'est vrai que lorsqu'on découvre la musique contemporaine, ça peut paraître rébarbatif comme ça à la première écoute. Mm-hmm. Il faut avoir peut-être une culture préalable, mais en tout cas, moi-même, j'ai découvert la musique contemporaine par imprégnation. Et je pense que c'est la meilleure manière de le faire. On peut la découvrir aussi d'ailleurs par la pratique, c'est-à-dire en utilisant les outils qui sont les outils des compositeurs finalement pour appréhender ce phénomène sonore.
Marcus Neusternig justement, alors vous êtes chercheur hein, dans cette équipe Espace Acoustique et Cognitif. Quand on est chercheur à l'IRCAM, on est avant tout scientifique ou musicien alors ?
Comme chercheur, on est scientifique, mais on a le lien avec la musique et... Je peux dire, je crois que la plupart des chercheurs à l'IRCAM s'intéressent très fortement à la musique.
Vous êtes musicien vous-même à la base ou pas ?
J'ai une formation comme musicien, comme compositeur aussi, ouais. Mm-hmm. Mais je ne suis pas compositeur. Je travaille avec les compositeurs, ça me permet de mieux comprendre les compositeurs et comment eux, ils travaillent. Mais je ne me vois pas moi-même comme compositeur, je suis chercheur. Et de temps en temps, je travaille comme réalisateur informatique musicale pour le temps réel, pour assister le compositeur ou travailler plutôt en collaboration avec le compositeur à la réalisation des œuvres.
Donc on peut parler de compositeurs nouvelle génération aujourd'hui avec tous ces outils qui sont à leur disposition et qui peuvent les accompagner aussi pour certaines œuvres.
Oui, il y a peut-être aussi des compositeurs d'une nouvelle génération. On a des jeunes compositeurs qui peuvent programmer eux-mêmes, faire du code en C++, en Python. C'est notre approche. C'est des jeunes compositeurs qui travaillent du début avec les ordinateurs.
Hugues Vinet, est-ce que c'est la fin des compositeurs et des musiciens, justement, avec tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, justement, avec les ordinateurs?
Non, précisément, je crois que c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus nous avançons, plus les outils se démocratisent et plus c'est utilisé par beaucoup de gens. Donc c'est en tout cas la trajectoire que suit l'IRCAM.
Ouais. Et vous avez vraiment des recherches dans plein de domaines, hein. On va pouvoir découvrir ça avec vous, mais qui sont aussi des propositions, par exemple, d'accompagnement de compositeurs?
Alors oui, il y a toujours à l'IRCAM, par exemple, lorsqu'on accueille des compositeurs, à moins que ce soit les compositeurs qui sont nés dans l'informatique, effectivement, qui se débrouillent tout seuls, il y a toujours une personne qu'on appelle le réalisateur en informatique musicale, qui fait partie du personnel de l'IRCAM, et qui va faire le lien, qui va développer le dispositif technologique. Donc ouais. On a tout de même cette assistance.
On va parler de ce week-end d'anniversaire, hein, qui se prépare donc dès demain à Pompidou et hors des murs, hein, justement, au 104 à Paris, avec des concerts vocaux, des spectacles, des performances. On va pouvoir déambuler également avec un casque sur les oreilles et puis assister à des conférences scientifiques. Un petit mot d'histoire quand même pour replacer l'IRCAM dans son contexte. Donc les années 70, Pierre Boulez donc à la tête de l'Institut, qui est né véritablement avec le bâtiment.
Alors effectivement, l'IRCAM a fait partie dès le départ du projet du Centre Pompidou. Et d'ailleurs, la petite histoire raconte que lorsque le président Pompidou a appelé Pierre Boulez pour lui proposer le projet, Boulez a raccroché croyant à un canular, mais il s'est fait rappeler immédiatement par la présidence et là il a vraiment compris ce qu'il attendait.
Ouais, surtout qu'il avait décliné l'offre de diriger un orchestre national en France pour justement proposer la création d'un centre de recherche musicale. Hein, donc c'était vraiment son rêve absolu.
Tout à fait, et il y avait même l'enjeu éventuellement de le créer en Allemagne. Et puis bon, ça s'est fait finalement, heureusement, à Paris.
Ouais. Alors quand on passe à Pompidou, vous êtes où exactement? Parce que vous êtes bien enterré sous terre quand même. Hein,
oui, mais effectivement on est peu visible parce qu'on est surtout en sous-sol. Nous sommes sous la fontaine Igor Stravinsky, donc avec les sculptures
de Nikita Saffal
et Tinguely. Ouais. Oui. Mais on voit tout de même l'IRCAM avec ce bâtiment en briques rouges sur cette place.
Ouais. Le but d'être sous terre, c'est quoi? C'est de se couper justement un petit peu de l'extérieur?
Alors effectivement, ça fait partie du projet architectural. En fait, les locaux et en particulier tous les studios sont totalement isolés phoniquement du reste. Ce qui fait que, par exemple, le métro passe tout près et on n'a aucune interférence.
Alors, comment démarrent les recherches à l'IRCAM au tout début, justement? Sur quelle piste est-ce que Pierre Boulez et ses équipes vont travailler? Et ça va vraiment aboutir à quoi, à l'époque?
Alors, bon, la première époque, on pourrait dire l'époque de Pierre Boulez, en gros, jusqu'à la fin des années 80, c'est vraiment l'époque des expérimentations. Mais il y a tout de même eu, je pense, un grand projet fédérateur qui a été la Catrix et puis la station d'informatique musicale de l'IRCAM, c'est-à-dire...
Alors voilà, on va s'arrêter tout de suite. Catrix, de quoi vous parlez exactement?
La Catrix, c'est la première machine qui a traité les sons en temps réel.
Donc c'est un ordinateur, clairement?
Non, les ordinateurs... oui, on peut dire que c'est un ordinateur, mais ce qui traitait le son, il n'y avait pas les processeurs spécialisés pour ça, donc c'était vraiment des composants, des additionneurs, des multipliers, etc. Et on avait besoin de ça pour faire des concerts avec l'ordinateur. Et l'IRCAM a été le premier lieu dans le monde où on a créé ces processeurs qui traitaient le son en direct. Et donc il y a eu des œuvres emblématiques faites avec ce dispositif. Par exemple, Réponds de Pierre Boulez, qui est vraiment une de ses œuvres maîtresses.
Alors on va l'écouter justement pour pouvoir replonger dans cette œuvre qui a été proposée en 80.
Alors la première création date de 81, c'est ça. Il y a eu ensuite une nouvelle version en 84. Je peux dire juste que donc dans cette œuvre, il y a une notion à la fois de traitement en temps réel et de spatialisation. Donc le dispositif est singulier. Nous avons le chef d'orchestre au centre. Nous avons 6 instrumentistes solistes qui sont disposés tout autour du public. Et le son de chacun des instrumentistes va être traité en direct par l'ordinateur. Donc dans l'extrait que je vous ai proposé, on entend le son de chacun des instruments avec son traitement informatique.
Alors cette œuvre justement de Pierre Boulez, Répond, on l'écoute. Voilà, Hugues Vinet, Répond, Pierre Boulez, avec cette technologie Catrix. Le dispositif, justement, il transforme complètement la façon d'entendre, de vivre la musique. Alors, vous parliez de cette spatialisation et des musiciens autour du chef.
Voilà, il y a toute cette notion d'espace que vit le public, puisqu'il y a une configuration. J'ai oublié de dire qu'il y a aussi un orchestre qui, en plus des solistes.
Quand même.
Mais on l'entend.
Ah ouais.
Voilà. Donc il y a cette notion d'espace. Et puis, ce que permet l'électronique, c'est évidemment l'extension du matériau sonore, au-delà des instruments. Et ça, c'est vraiment là que la musique électronique a démarré, on pourrait dire.
Ouais. Comment est accueillie cette œuvre, alors, à l'époque? Parce que même encore aujourd'hui, quand on écoute ça, on n'est pas habitué, quand même, l'oreille est peu au fait de ces sonorités.
Ben nous un peu plus justement, moi quand je l'entends, si.
Ben oui. Pour vous, ça vous paraît une œuvre ancienne déjà maintenant?
Alors peut-être pas sur le plan formel, mais en tout cas sur le plan des procédés de traitement électronique, oui.
Ouais. Marcus Neusterling, quand vous entendez justement cette œuvre aujourd'hui, vous entendez aussi l'époque technologique qu'elle représente?
Oui, on entend l'époque technologique, mais il faut aussi dire, si on regarde le contenu, point de vue spatial, timbre, etc., c'est quand même une pièce exceptionnelle, il faut le dire. Mmh. Aussi, point de vue spatialisation sonore, c'était simple. Il y a 6 haut-parleurs entre les solistes. Et il y a des trajectoires qui se fondent.
Oui.
Et il était un remix qu'on a fait il y a un an, je crois. Où on peut, à partir d'un enregistrement des années 86, oui, je crois, où on peut maintenant bien entendre aussi les mouvements qui a souhaité à faire Pierre Boulez.
Ouais. Est-ce que cette œuvre, elle est rejouée régulièrement, Hugues Vinet?
Ah oui, tout à fait. Oui, oui.
C'est devenu un classique, on pourrait dire, la musique contemporaine.
Ah, tout à fait. Ouais. Oui, bien sûr. Elle a encore été jouée récemment à l'inauguration de la Philharmonie à Paris.
Ouais, ouais. Alors, on va entendre justement quelque chose d'intéressant, c'est la Reine de la Nuit, parce que là aussi, vous avez travaillé avec l'IRCAM. Alors, on va d'abord écouter l'extrait de cette air très connue de l'opéra de Mozart. Voilà, l'air de la Reine de la Nuit, la flûte enchantée. Qui est la soprano qui interprète l'air de la Reine de la Nuit?
Ben écoutez, elle n'existe pas.
Elle n'existe pas, ouais.
Non. Donc en fait, c'est un logiciel qui s'appelle Chant, qui synthétisait, et qui synthétise toujours, il existe toujours, les voyelles.
Ouais.
Et ensuite, il y avait un logiciel qui permettait de contrôler les vibratos, les mélodies, etc., qui s'appelait Forme. Et donc, effectivement, cette chanteuse est totalement synthétique.
Ouais. Vous avez fait écouter ça à des chanteurs lyriques, sans leur dire, évidemment, qu'il s'agissait d'une voix synthétique?
Alors, oui, et puis nous-mêmes, lorsqu'on l'entend, au début, on est un petit peu bluffé, mais à certains moments, tout de même, on entend certaines choses. Oui.
Donc tout le monde reconnaît qu'il s'agit plutôt d'une machine que d'un humain?
Ah, pas tout le monde, mais je pense à un musicien professionnel.
Un musicien professionnel, oui. Quel est l'intérêt, justement, de recréer une voix comme celle-là?
Bah, c'était déjà une prouesse technologique, et puis c'est évidemment après pour démultiplier les possibilités sonores, puisque on peut partir, une de nos méthodes possibles, c'est de partir de modèles qui vont finalement simuler la réalité de manière très très vraisemblable, pour après s'en éloigner.
Allez, vous restez avec nous, les 40 ans de l'IRCAM, avec d'autres sons, d'autres extraits de vos travaux à faire écouter aux auditeurs dans un instant, avec les messages sur franceinter.fr.
I love you, I love you. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire. Branche un peu tes écouteurs par ici. La mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Riviera, Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Le casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la refaire. Fermez les yeux des grandes fibres marines, tout à languie pour nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine, des limousines. Écoutez l'histoire entre Trouville et Dinard, d'un long baiser fini, c'est trop tard. Les mains sur le satin, caresse du matin au chagrin. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire.
Il y a de la rumba dans l'air après Souchon, la version de Catherine à l'instant.
La tête carrée sur France Inter.
Et les 40 ans de l'IRCAM, donc c'est ce week-end avec mes invités Hugues Vinet, directeur de recherche, et Marcus Neusternig, chercheur au sein d'une équipe d'acoustique et de cognition à l'IRCAM. Et puis vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Larry, justement sur Twitter, Hugues Vinet qui vous demande ce que vous pensez des formats de compression type MP3. Est-ce que l'IRCAM y travaille? Est-ce que vous avez cherché de meilleurs formats là-dessus?
Alors nous-mêmes, nous ne travaillons pas sur la compression. Il y a d'autres laboratoires, en l'occurrence le Fraunhofer Institut en Allemagne, qui est le concepteur de ce format. Par contre, nous nous intéressons aujourd'hui, et nous travaillons d'ailleurs avec eux, sur des formats qui vont permettre de produire la musique avec toute sa spatialisation. Donc je peux peut-être laisser Neusternig. Ouais.
Marcus en parler. Neusternig, voilà. C'est quoi alors exactement la spatialisation dans le son?
La spatialisation, donc l'espace dans le son, ça peut être... Peut-être vous connaissez la réverbération, donc quand vous êtes dans une salle, il y a une forte influence de la salle sur ce que vous percevez à la place où le spectateur percevoit. Mm-hmm. Donc la spatialisation sonore, typiquement, c'est l'objet dans l'espace. On peut déplacer une source virtuelle dans l'espace en utilisant par exemple un réseau de haut-parleurs périphériques autour du spectateur.
Mm-hmm. Donc ça, c'est la spatialisation. Et donc, vous travaillez beaucoup sur ce thème de recherche?
On travaille beaucoup sur ce thème de recherche, oui.
Et justement, en fait, l'avenir, c'est qu'on ne va plus produire uniquement en stéréo ou en 5-1, mais à des formats qui vont permettre de restituer auprès de l'auditeur toute la richesse spatiale du son.
Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer la radio France Inter version spatialisée, alors, du coup?
Alors, en fait, France Inter travaille déjà sur ces sujets-là. Ouais.
Ah ben mince, alors j'étais même pas au courant
avec nous.
Alors, racontez-nous, justement, comment on travaille en radio autour de ce thème.
Donc là, on travaille très concrètement dans un projet européen qui s'appelle Orpheus, qui nous permet de travailler avec la BBC, le broadcast en Allemagne, l'Institut Fraunhofer, etc., et plein d'autres partenaires. Et là, on s'intéresse au format objet. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas envoyer le mix stéréo 5 points, etc. aux auditeurs. On va envoyer les objets sonores avec les attributs. Un attribut, ça peut être la position dans l'espace, l'orientation, la directivité. Mm-hmm. Et c'est le client ou le logiciel du client qui va mettre ça ou spatialiser ça comme scène sonore.
Mais concrètement, dans notre écoute de la radio, par exemple, ça pourrait changer quoi? Est-ce que ça nous donnera l'impression d'être vraiment au milieu du studio avec le journaliste et les invités?
On pourrait mettre le spectateur, l'auditeur, directement au milieu du studio. On peut envoyer nos trois voix comme objet sonore. C'est le spectateur qui pourrait éventuellement déplacer nous dans l'espace virtuel, changer
les positions
des trois sources sonores, ou supprimer une source sonore, ou monter le son d'une source sonore. Ouais. Donc, mais nous, on s'intéresse plutôt à la spatialisation.
Mais Hugues Vinet, qu'est-ce que ça va changer au fond? Le but de ce travail, c'est quoi? C'est de rendre les choses plus réelles encore?
D'avoir un contenu plus riche, plus réaliste. C'est vraiment ça, puisque Aujourd'hui, les formats de diffusion audiovisuelle, c'est des goulots d'étranglement en termes d'information. Et on veut démultiplier l'information qui est le contenu même du son et de la musique.
Alors, il y a Isabelle qui nous envoie un petit message au sujet du passage de la Reine de la Nuit, qu'on a diffusé tout à l'heure. Elle nous dit, on reconnaît surtout que c'est un logiciel parce qu'il manque la reprise de respiration de la chanteuse.
C'est juste.
On ne fait pas respirer la machine, alors ?
En fait, aujourd'hui, on sait le faire, mais à l'époque, je ne suis pas certain.
Oui, donc là, on reconnaît effectivement tout de suite qu'il s'agit d'une machine. On va écouter un autre extrait, alors, toujours dans le registre classique, extrait du film Farinelli, qui était sorti en 1995, et vous allez nous dire en quoi, justement, ça intéressait les équipes de IRCAM. Handel, magnifique. Comment l'IRCAM a travaillé là-dessus ? Ça aussi, c'est une voix synthétique ?
Alors oui, on peut dire que c'est une...
Il n'y a rien d'humain dans ce qu'on entend ?
Ah si, si, tout à fait. Alors ça, c'est une hybridation de deux voix réelles. Parce que l'utopie de Gérard Corbiot, lorsqu'il est venu nous trouver, était de faire un film sur Farinelli, donc avec Farinelli chantant.
Gérard Corbiot, le réalisateur du film.
Voilà, tout à fait. Et évidemment, le répertoire des castrats de l'époque était injouable par un interprète isolé, puisqu'il y a une très grande tessiture, on descend dans le grave et on monte à l'aigu.
C'est vrai.
Et donc, ce qui nous a été demandé, c'est de créer une voix synthétique qui soit hybride entre une voix de femme, soprano, et une voix d'homme, contre-ténor. Et donc, les deux ont chanté ce qu'ils pouvaient dans leur tessiture, et ensuite, on a apparié les voix, et on a créé cette voix synthétique hybride. Toute la difficulté étant de ne pas introduire d'artefacts qui s'entendent.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la grande difficulté dans le traitement de la voix, c'est le naturel. C'est d'avoir à la fin quelque chose de naturel.
Avec la respiration, entre autres.
Notamment.
On en parlait tout
à
l'heure.
Mais même, en général, à l'époque, on entendait des sons, des sifflements, des choses qui n'existent pas dans la voix réelle et qui sont liées aux algorithmes qu'on utilise. Et donc, ça a été le grand défi de ce travail.
Et vous avez donc créé cette voix originale pour le film Farinelli.
Voilà.
Et ça reste très beau, parce qu'on a quand même les poils qui se dressent sur les bras. Donc, comme quoi, c'est très réussi.
Et ça, c'est évidemment lié aux interprètes de départ et leur musicalité. Le plus difficile, c'est de produire de la musicalité d'un interprète. Ça, aujourd'hui, on n'a pas encore de connaissances scientifiques suffisamment importantes pour produire un logiciel qui est musical.
Ouais. Les chanteurs s'intéressent à vos travaux ou ils voient ça d'un œil un petit peu avec beaucoup de recul, parce que finalement, au fond, il y a une concurrence possible aussi avec eux.
Non, pas du tout. Mais... C'est tout à fait complémentaire. Il y a même des chœurs. Il y a énormément de collaborations avec des artistes, bien entendu. Il faut concevoir, et c'est notre propos, toujours l'outil, comme une prothèse de l'humain. Absolument pas comme un remplacement, comme un remplaçant du bien.
Ouais.
Comme vraiment un outil qui lui permet d'aller plus loin.
Ouais. Marcus Nosternig, combien de chercheurs travaillent à l'IRCAM comme vous alors ?
On est grosso modo une centaine, 150 chercheurs à l'IRCAM.
C'est beaucoup ?
C'est beaucoup, oui.
Ouais, ouais.
Je crois que ça reste le plus grand centre...
Au monde,
au monde de la recherche appliquée à la musique, comme à l'IRCAM, oui.
Alors, espace acoustique et cognitif. Alors ça, c'est un drôle de truc quand même. Qu'est-ce que vous faites dans cet espace ?
Non, c'est pas drôle. Moi, je trouve que c'est pas drôle. Donc, en fait, on a changé le nom. C'était l'ancienne équipe acoustique des salles.
Ouais.
Mais si on travaille dans l'équipe, il travaille Isabelle Viaud-Delmont, qui s'occupe de la cognition et perception du son. Donc, c'est ce quelque chose qui nous intéresse, c'est pas seulement la perception sonore, mais aussi des projets, comment on peut s'orienter dans l'espace virtuel, qui est un peu au-dessus de la perception sonore standard, où on fait des tests, jusqu'à de la précision d'une localisation d'une source dans l'espace, etc.
Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple concret ? Parce que vous aussi, vous nous avez apporté du matériel sonore à faire écouter aux auditeurs, issu d'une église désaffectée de Venise, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est une église qui s'appelle Chiesa San Lorenzo, c'est une église très célèbre. Depuis, Luigi Nono a fait son œuvre Prometeo dans cette église, en collaboration avec Renzo Piano, où ils ont créé, Renzo Piano comme scénographe, un espace dans l'espace. Et là, la compositrice autrichienne Olga Neubiert m'a demandé si on peut conserver l'acoustique de cet lieu, l'empreinte acoustique de cet lieu-là.
Alors l'idée, c'était quoi ? De conserver cette empreinte sonore pour la rapporter dans d'autres lieux au moment où cette œuvre serait proposée, c'est ça ?
Exactement, c'est ça. Ouais. Donc c'est une très belle acoustique, il y a deux salles couplées, c'est très difficile à simuler. Donc là, l'idée c'était, est-ce qu'on peut y aller, mesurer en trois dimensions, parce que c'est ce qui nous intéresse,
d'accord,
pour qu'on puisse après reproduire celui-là dans les salles de concert pour l'œuvre, par exemple, Les Incandadas.
Alors justement, Les Incandadas, on va écouter justement cette œuvre, un extrait en tout cas. Nous sommes à Venise.
Dans l'église qui est
dans l'église. Oui, ouais. Donc ça, c'est la prise sonore effectuée dans l'église.
Non, c'est pas seulement la prise sonore effectuée dans l'église. Donc là, c'est un mélange entre quelques enregistrements qu'on a fait dans l'église avec un réseau microphonique qui nous permet de capter la scène sonore en trois dimensions. Et également, on a capté les réponses impulsionnelles, donc l'acoustique de la salle qu'on puisse après utiliser comme filtre pour les voix qui ont été enregistrées dans les studios de l'IRCAM. Donc, par exemple ici, le contre-ténor, il était enregistré à l'IRCAM.
Alors comment vous travaillez justement dans la transposition de ces lieux lorsque vous souhaitez justement proposer cette même empreinte sonore ailleurs? Parce qu'évidemment une salle, ça dépend des matériaux, ça dépend du nombre de personnes qui sont dans la salle, tout ça, ça joue sur le son. Donc ce matériau que vous rapportez de Venise, là, il est tel quel dans une autre salle ou de toute façon il y a l'influence du nouveau lieu qui joue?
Il y a l'influence du lieu, ça c'est clair, on ne peut pas supprimer l'acoustique de la salle, on peut augmenter l'acoustique de la salle avec cette acoustique virtuelle.
Ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à recréer le son identique à celui de Venise? Il y aura toujours une différence
dans
de
une chambre anéchoïque, par exemple.
Non, pardon.
Dans une chambre anéchoïque, où on supprime vraiment l'acoustique de la salle de la reproduction.
Ouais.
Par exemple, là, on a, c'était la suite de ce projet Incandadas, une exposition au Centre Pompidou, où on a installé un dispositif de grosso modo 100 haut-parleurs périphériques dans une salle assez sèche acoustiquement. Et là, on arrive de reproduire vraiment l'acoustique.
C'est plus facile de l'habiller.
Exactement. Donc, c'est l'augmentation d'une salle vide, grosso modo. Et là, on travaille aussi sur le temps réel. C'est ce qui nous intéresse parce que dans Incandadas, on a 6 groupes de musiciens autour des spectateurs. Chaque musicien est capté par un microphone proche à l'instrument, et on peut décider de le placer les instruments un par l'autre virtuellement dans la salle en temps réel, donc dans l'acoustique virtuelle en temps réel.
Voilà donc un exemple concret du travail que vous menez au sein de votre équipe. Hugues Vinay, il y a une question de Damien qui demande ceci. Est-ce qu'il est possible de corriger les fausses notes d'un chanteur en direct avec vos super ordinateurs et les logiciels adaptés?
Alors en direct, évidemment non, parce qu'une fois que le son a été produit, il est difficile de revenir en arrière.
Mais quand vous parlez de temps réel, ça pourrait presque être ça aussi, hein, non?
Alors non, parce qu'une fois que le son a été entendu, on ne peut plus le corriger. Mais ce que je peux vous dire tout de même, c'est que c'est largement fait en post-production.
Oui, bien sûr.
J'ai des exemples en tête où on a corrigé effectivement des choses à la main. Oui.
Ouais, pour des albums ensuite qui sont édités pour le public. Donc on peut chanter mal en direct en scène, mais rattraper le coup pour...
Oui, ce n'est pas un usage fréquent tout de même.
Et vous avez des noms à nous donner?
Je ne vous les donnerai pas.
Secret professionnel. Allez, on reste ensemble dans un instant, les 40 ans d'IRCAM, la suite de notre discussion.
Thank you.
Papa's got a brand new bag avec James Brown à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
L'IRCAM, l'acoustique et la musique avec les 40 ans donc de cet institut, Hugues Vinet et Marcus Neusternig sont mes invités cet après-midi et vous nous rejoignez toujours avec vos messages sur franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Alors puisqu'on parle de recherche scientifique, Hugues Vinet, quelles sont les disciplines qui travaillent le plus avec la musique chez vous ?
Alors précisément, nous couvrons un champ scientifique très large, dont le centre de gravité concerne les technologies de l'information, donc le traitement de signal, pour traiter le son, l'analyser, etc. Et l'informatique, spécialisée dans nos domaines, beaucoup l'intelligence artificielle, ou l'informatique par exemple, on parlait de temps réel, donc ça c'est une discipline de l'informatique. L'acoustique, évidemment, pas seulement l'acoustique des salles, donc ça c'est une dimension importante, mais aussi l'acoustique des instruments. On étudie le fonctionnement des instruments et on les simule dans l'ordinateur. Ça donne lieu à, par exemple, des instruments virtuels qui n'existent pas.
Ouais. Ou qui ont des noms ? Ils ont des noms, ces instruments, ou pas ?
C'est après à la personne qui crée le logiciel de leur donner, finalement. On peut faire des hybrides entre des instruments existants. Ou récemment, par exemple, on a fait ce qu'on appelle des smart instruments, c'est-à-dire à partir de vrais instruments, on va disposer des capteurs et des excitateurs sur l'instrument et on peut modifier leur comportement, les faire sonner mieux, par exemple, ou même diffuser des sons autres qui se diffuse par le corps de l'instrument. Donc ça, c'est très utilisé.
Ah oui.
Et d'ailleurs, il y aura un concert dans notre festival à ce sujet.
Ouais, donc des instruments dont la matière même, en fait, diffuse du son, c'est ce que vous voulez dire ?
Exactement. Ouais. Ça remplace le haut-parleur et donc ça crée un nouveau rapport dans l'espace.
Et justement. Donc, on est capable d'écrire des œuvres aujourd'hui intégralement avec ce type de dispositif.
Il y en a eu un certain nombre à l'IRCAM, mais il y en aura encore pendant le festival, effectivement.
Ouais. Donc parmi les disciplines, il y a les mathématiques, évidemment.
Alors voilà, les mathématiques à la fois qui alimentent le traitement de signal, mais aussi il y a tout un pan de nos recherches qui concerne les langages informatiques spécialisés où on va modéliser non pas le son mais les structures musicales, les rythmes, les mélodies, etc. dans l'ordinateur. Ça relève de ce qu'on appelle l'informatique symbolique où on va représenter la musique en structure discrète, des notes, des rythmes et autres. Et ça permet de produire algorithmiquement des partitions. Mais au-delà, ça permet une intelligence artificielle. Par exemple, un interprète artificiel qui va improviser avec vous, vous voyez, qui analyse ce que vous faites en termes de langage musical, qui va structurer l'analyse de votre propos musical et qui va lui-même réagir selon cette même structure.
Et en temps réel, là aussi ou pas,
en temps réel, tout à fait. Voilà, donc informatique. Et puis après, on a déjà abordé ce sujet-là, mais tout ce qui concerne les sciences humaines, donc musicologie contemporaine, évidemment.
Ouais. Mais je vois la biologie, les neurosciences, par exemple. La biologie, comment vous travaillez concrètement ?
Alors non, c'est vraiment, en l'occurrence, la psychologie cognitive et les neurosciences.
D'accord.
Ouais. C'est-à-dire qu'on étudie tout ce qui concerne le sujet humain du point de vue de sa relation avec le son. Perception multimodale, c'est-à-dire comment on articule conjointement la vision, le son, le mouvement, etc. Voilà, ça c'est vraiment des sujets qui nous sont spécifiques. Et plus récemment aussi, un thème sur les fondements neurologiques de l'émotion musicale. C'est-à-dire quels sont les circuits neuronaux qui sont activés lorsqu'on perçoit telle ou telle émotion. Ça fait l'objet d'un ERC à l'IRCAM.
Alors Hugues Vinet, parce qu'il nous reste 5 minutes, je voudrais qu'on écoute encore quelques extraits, quelques sons que vous nous avez apportés pour illustrer par exemple ce domaine du design sonore. Donc ça c'est aussi un domaine très travaillé à l'IRCAM. Vous avez travaillé par exemple pour des constructeurs automobiles dans ce domaine.
Voilà, donc là le but c'est de concevoir le son de notre quotidien. Donc là le but n'est pas de faire de la musique, mais de faire des sons qui soient à la fois esthétiques et fonctionnels, qui soient porteurs d'informations. Et par exemple, nous avons travaillé avec Renault pour concevoir le bruit des voitures électriques.
Qui n'ont pas de bruit d'ailleurs, de l'extérieur en tout cas, qui sont très silencieuses.
Et c'est pour ça, il faut compenser cette absence de bruit par un son qui va être donc produit. Et donc là, c'est la voiture Zoé qui existe, qui est commercialisée, et nous avons conçu ce son.
Alors on va écouter un des sons proposés pour Zoé, c'est Glam par exemple, donc on écoute ce que ça donne.
Thank you.
Alors ce son, il est mis où alors? Dans, à l'intérieur de l'habitacle ou au contraire à l'extérieur?
Non, il est mis à l'extérieur et c'est pour informer les personnes à l'extérieur. Et le son informe aussi sur la vitesse de la voiture. Ouais. Donc là, on a entendu une variation qui est liée à la vitesse.
Donc si on prête l'oreille et qu'on voit passer des zoés dans la rue, on devrait entendre un son d'IRCAM.
Oui, j'ai déjà reconnu ce son-là dans la rue.
C'est vrai?
Absolument.
Bon, donc ça c'est pour des mesures de sécurité, hein, concrètement.
Oui, oui. Et ça concerne plein d'autres domaines. Par exemple, aujourd'hui, on travaille avec les champagnes Krug aussi, qui s'intéressent à la synesthésie entre le goût et l'audition, par exemple.
Alors, Simon demande, dans vos recherches, est-ce que l'IRCAM a déjà travaillé sur l'adaptation de la musique en studio ou en concert pour la rendre mieux perceptible pour les sourds ou les malentendants? Est-ce qu'il y a des travaux dans ce domaine?
Pas directement. En tout cas, on travaille sur la visualisation. Et on vient de sortir un logiciel qui s'appelle Snell, qui est un logiciel tout à fait innovant pour visualiser les contenus de la musique en cercle. Donc on a un cercle qui couvre toutes les notes possibles et c'est comme une spirale. Si vous changez d'octave, vous avez un cercle supérieur, etc. Et c'est une nouvelle forme de visualisation de la musique qui pourrait intéresser, je pense, les malentendants.
Autre exemple, sur un documentaire qui a été diffusé en 2015, Jugé Pétain. Vous avez travaillé sur des voix. Alors on va écouter justement d'abord la voix de Pétain. On l'écoute.
J'ai rencontré jeudi dernier...
Court extrait.
Voilà, ça c'est la voix, un extrait qu'on avait de la voix de Pétain, oui. Alors le but, c'était un documentaire où on avait juste les images, mais pas le son. Oui. Par contre, on savait ce que les personnes avaient dit et on voulait recréer la voix de Pétain. Pour ça, on a pris un acteur et on lui a fait dire ce qu'avait dit Pétain. Et ensuite, on a transformé sa voix vers la voix de Pétain.
Alors on va d'abord écouter l'acteur, donc un être humain, un vrai.
Je ne répondrai à aucune question.
Ça c'est l'acteur.
Voilà. Et donc le mix ensuite entre l'acteur et la voix originale de Pétain, et ça donne ça.
Je ne répondrai à aucune question.
Voilà, ça c'est le travail de vos équipes.
Hein. Voilà, tout à fait. Et donc on a synthétisé comme ça les voix des différents protagonistes. Et ce qui est drôle aussi, c'est que comme on prend un son d'époque, on synthétise aussi un son d'époque. Ouais. Et donc ça paraît encore plus réaliste.
Et vous avez été capable donc de faire des dialogues entiers et de pouvoir proposer une voix hein, sur ce qui était déjà écrit de ces dialogues et dont on n'avait évidemment aucun enregistrement de l'époque.
Tout à fait.
Ouais. Hugues Vinet, donc les 40 ans d'IRCAM, c'est ce week-end pour le public, qui sera pour les Parisiens plutôt, évidemment. Vous avez plusieurs rendez-vous. Il y a d'abord l'IRCAM.fr, ça c'est votre site. Qu'est-ce qui va se passer à partir de demain jusqu'à dimanche?
Alors il y a un certain nombre de concerts et de performances qui sont proposées. Il y aura notamment une présentation scientifique d'un projet qui s'appelle COSIMA, qui est faire de la musique ensemble avec les smartphones, qui sera présenté dans les locaux de l'IRCAM samedi après-midi.
On a le temps de passer le son, d'ailleurs, on a aussi un petit son de COSIMA. Voilà.
Là, ce qu'on entend, c'est plein de gens ensemble qui font de la musique avec leur smartphone. Bon, là, ce sera un peu une des choses qu'on fait. Il y aura aussi ce projet qui sera illustré par une déambulation autour de la place Stravinsky. Donc, tout ceci est gratuit. Également, je voulais mentionner, vendredi et samedi soir à 22h, il va y avoir une situation tout à fait intéressante. Devant le centre Pompidou, il va y avoir un brouillard qui va tout recouvrir et vous entendrez donc un dispositif sonore tout à fait innovant. Je ne veux pas dévoiler. Mais
donc c'est demain et samedi soir.
Ce sera vendredi soir et samedi soir à 22h devant le centre Pompidou.
Bon, ben voilà. Et on peut avoir toutes les informations, en tout cas, sur le site IRCAM.fr. Il y aura également une soirée spéciale sur France Musique. Demain, avec une rencontre en compagnie des chercheurs et la retransmission d'un concert. Donc tout ça va se faire à l'occasion de ce 40e anniversaire. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci à vous Marcus Neusterning et Hugues Vinet pour vos explications et puis vos extraits sonores que vous nous avez apportés cet après-midi. Merci beaucoup. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles, une nouvelle affaire dans un instant.
Oui, alors moi aussi je suis dans les anniversaires et dans la musique.
Lequel? Ah bon?
L'anniversaire de la sortie de l'album des Beatles. Sergeant Pepper,
ah oui, c'est
c'était
vrai.
Le 1er juin 1967, figurez-vous.
Exactement, oui.
Et nous en parlerons avec notre invité Jacques Volcouve, qui est le plus grand connaisseur des Beatles en France, un collectionneur. Il sait tout sur les Beatles, bien plus que Wikipédia, forcément. Voilà, donc avec lui, on a tout.
Et c'est dans un instant, vous allez nous faire écouter des extraits, j'imagine.
Bien sûr.
Ça sera de l'affaire sensible après les infos.